Alors, bonjour Guillaume Davranche, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour te présenter rapidement, tu es journaliste, chercheur indépendant et militant libertaire. Tu as publié un premier ouvrage en 2014 qui s'intitule Trop jeune pour mourir et qui traitait de la réaction ouvrière face à la montée vers la guerre dans les années 1909-1914. Tu as publié ensuite un autre livre sur la révolution russe et le rôle des anarchistes aux éditions d'Alternatives Libertaires. Et puis récemment, en janvier dernier, tu as sorti un troisième livre, 10 questions sur l'anarchisme aux éditions Libertalia. Alors la première question qu'on aimerait te poser, c'est pourquoi as-tu souhaité écrire ce livre et à qui s'adresse-t-il?
En fait, ce livre, c'est un livre de commande. C'est-à-dire que ce sont les éditions Libertalia qui m'ont fait la proposition, qui m'ont dit est-ce que ça te dirait de faire un petit bouquin facile d'accès, pas cher, pas trop long, pour le grand public sur l'anarchisme. Alors, j'ai tout de suite répondu oui, ça me branchait bien, et d'autant plus qu'il y avait beaucoup de livres sur le marché déjà, entre guillemets, pour parler de l'anarchisme, tous les éditeurs quasiment en ont un, des petits anarchismes pour les nuls, quoi. Mais souvent, je trouvais ça assez décevant. Et donc, j'ai discuté un peu avec l'éditeur, avec Libertalia, pour voir quelle forme prendrait ce livre. Et on s'est mis d'accord un petit peu sur ce qu'on voulait pas faire déjà. Donc, c'est pas un livre, c'est pas une anthologie de textes sacrés avec Proudhon, Bakounine, Malatesta, etc. C'est pas la muséographie classique de l'anarchisme, voilà, où on va parler du passé glorieux. Non, c'est vraiment un livre qu'on voulait être un livre qui est ancré dans le présent, un livre un peu d'intervention politique, tout en étant un livre facile d'accès au grand public. L'idée, c'est que voilà, quelqu'un qui n'y connaît rien, il doit pouvoir prendre le livre, il doit pouvoir le feuilleter, il doit pouvoir le lire même un peu dans le désordre s'il veut, et il doit pouvoir trouver des réponses précises aux questions qui se posent sur tel ou tel aspect. Il doit pouvoir retenir un petit peu, voilà, dans les grandes lignes, c'est quoi le projet de société, c'est quoi le projet politique qui est lié à l'anarchisme. Voilà. Même si c'est un livre qui ne donne pas une vision univoque, hein, de l'anarchisme, parce qu'il y a quand même différents courants, différentes approches, différentes sensibilités au sein de l'anarchisme, mais il y a quand même malgré tout des fondamentaux qui restent les mêmes, quoi, grosso modo, depuis la fondation de ce courant, il y a environ 140 ans maintenant. Il y a quand même des choses qui ne changent pas trop, et donc le livre, il est basé là-dessus, sur les fondamentaux, l'explication des fondamentaux et leur déclinaison contemporaine. Voilà.
Alors dans ton livre, tu abordes donc l'anarchisme à travers 10 questions et avec ces 10 questions, tu traites de 10 sujets différents, 10 aspects de la société comme l'économie, le féminisme, l'écologisme, etc. Donc ça couvre à peu près l'ensemble des aspects de la société. Et il y a un chapitre en particulier où tu t'intéresses, où tu traites des stratégies révolutionnaires, des stratégies d'action. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais en dire, puisque on sait que l'anarchisme, c'est un courant politique qui refuse de participer aux élections. Donc, comment les anarchistes, comment les militants libertaires envisagent d'agir, envisagent d'influer sur la société pour la transformer?
Oui, alors c'est vrai que c'est une question que se posent parfois les gens, puisque l'anarchisme, dans la mesure où il boycotte le pouvoir d'État, où il se présente pas aux élections, le courant anarchiste se présente pas de candidat au Parlement, ni à l'élection présidentielle, les gens peuvent se demander parfois, mais alors, comment est-ce que vous pensez changer la société? Alors par rapport à ça, il y a un peu trois stratégies qu'on retrouve dans l'histoire de l'anarchisme, et c'est toujours valable aujourd'hui. Il y a trois stratégies qui sont pas forcément étanches, hein, d'ailleurs l'une de l'autre, qui parfois s'imbriquent selon les périodes. Et ce sont trois stratégies que, bon, pour les résumer, il y a la stratégie insurrectionnaliste, la plus connue, parce que la plus spectaculaire, la stratégie syndicaliste, moins visible, mais qui en fait est très largement majoritaire dans le mouvement libertaire mondial. Et puis la stratégie, on va dire, éducationniste réalisatrice, qui est une stratégie qui repose davantage sur l'idée que c'est les alternatives en acte, ici et maintenant, qui permettent de changer les choses. Alors pour développer un peu, la stratégie insurrectionniste, c'était la toute première en fait qui s'est imposée dans le mouvement anarchiste, à l'époque où il s'est créé, c'est-à-dire à une époque où on était dans l'idée de refaire parler la poudre assez vite après la Commune de Paris. Hein, à une époque où on était fasciné par les attentats des nihilistes russes, à une époque où les maquisards italiens faisaient des coups de force dans les montagnes. Et donc, à ce moment-là, la stratégie insurrectionnaliste, c'était ça. Il s'agit de démontrer, par des actes spectaculaires, que la révolution est nécessaire. Alors, ça pouvait être des attentats, hein, ça a été des attentats contre des biens, ça a été des attentats contre des personnes. Et cette stratégie, là, insurrectionnaliste, elle a duré une dizaine d'années environ, dans la première décennie 1880 d'existence du mouvement anarchiste. Bon, après, elle a marqué le pas, parce qu'elle n'a pas donné beaucoup de résultats, en fait, en réalité, à ce moment-là. Et on est passé, enfin, le mouvement a existé sur une autre stratégie à ce moment-là, dans les années 1890, qui a été la stratégie dite syndicaliste. La stratégie syndicaliste, elle consiste à dire il faut que les anarchistes soient présents dans les mouvements de masse. Donc, ça a été, en premier lieu, ça a été le mouvement ouvrier. Ça a été à l'époque notamment de la création des premiers syndicats ouvriers. Il fallait que l'anarchisme y soit afin de pouvoir proposer une méthode d'action, une orientation politique révolutionnaire. La méthode d'action proposée étant la méthode de l'action directe, c'est-à-dire le syndicalisme est là, non pas pour imiter le socialisme parlementaire, le syndicalisme est là pour mettre la classe ouvrière en action, parce que c'est l'action directe qui va permettre à la classe ouvrière de prendre conscience de sa force, de sa solidarité, de son pouvoir dans la société, par la grève notamment, hein, la grève générale, quand tout le monde croise les bras, la société ne tourne plus, et ça démontre la puissance sociale du prolétariat. Donc les anarchistes ont fait du syndicalisme, et notamment du syndicalisme révolutionnaire, leur principal véhicule d'action large. Voilà, pour ne pas rester entre eux dans un ghetto anarchiste, en quelque sorte. Il s'agit d'être inséré largement dans les mouvements sociaux, d'être en phase avec les mouvements sociaux. Voilà, ça c'est une stratégie qui a été inventée dans les années 1890 et qui reste largement majoritaire aujourd'hui. Et puis, il y a une troisième stratégie, qui est dite éducationniste réalisatrice, qui est apparue dans les années 1890 également, et qui là consiste à dire ce qu'il faut, c'est éduquer l'individu. En fait, il ne peut pas y avoir de révolution dans la société si on ne change pas les mentalités. Et pour changer les mentalités, il faut éduquer l'individu. Et un des biais pour éduquer l'individu, c'est les alternatives en actes. Donc ça a été la vogue. Enfin, quand je dis la vogue, ça a toujours été quand même relativement restreint, en fait, à certains petits cercles, mais ça a été l'idée de créer des communautés, des colonies, voilà, dans lesquelles on ferait vivre l'idéal anarchiste, l'harmonie, en fait, communiste et anarchiste, ensemble, voilà, afin de démontrer que c'est possible. Aujourd'hui, on trouverait, alors, dans les années 1990, par exemple, il y avait, on pouvait trouver un avatar de stratégie dans les TAZ, les zones autonomes temporaires, et puis à notre époque, dans les années 2010, c'est définitivement le mot ZAD qui s'impose pour s'y référer, quoi, c'est-à-dire les zones à défendre, qui sont également conçues comme des territoires libérés de l'oppression, du capitalisme, et qui peuvent constituer un contre-pouvoir, dans une certaine mesure, face au capitalisme, mais surtout un contre-exemple. Voilà. Et ce contre-exemple devant montrer qu'il est possible d'agir, de faire autrement, et devant constituer un point de ralliement. Alors ces trois stratégies, insurrectionnalistes, syndicalistes et réalisatrices, quoi, éducationnistes, elles sont pas forcément toujours concurrentes. Hein. Dans l'histoire, ça va pas. Elles ont été parfois concurrentes. Des fois, elles se sont surclassées l'une l'autre selon les périodes, mais des fois, elles ont également agi main dans la main. C'est-à-dire que, par exemple, la stratégie syndicaliste et la stratégie éducationniste réalisatrice, elle a parfaitement pu marcher main dans la main à une époque où le syndicalisme révolutionnaire était puissant et où il pouvait s'appuyer sur tout un réseau de coopératives de production ouvrière qui constituaient des formes de contre-exemple de gestion ouvrière dans la société actuelle. Et l'articulation de ces deux choses-là avait une valeur stratégique révolutionnaire. De la même façon que l'insurrectionnalisme et le syndicalisme ont pu se combiner aussi à certaines périodes, notamment dans des périodes qui sont réellement pré-révolutionnaires ou révolutionnaires, où là, la question de la prise d'armes se pose de façon très concrète et même incontournable. Je pense aux périodes révolutionnaires espagnoles, hein, par exemple, dans les années 1936-37, ou mexicaines, ou russes, enfin voilà. Quand la situation l'exige, la prise d'armes devient incontournable, et là, la stratégie insurrectionnaliste, évidemment, elle reprend du poil de la bête, et on peut en parler de nouveau de façon non déconnectée des conditions sociales, quoi.
Oui, effectivement, on a peut-être trop tendance à opposer ces différentes stratégies, alors que finalement, elles sont plutôt complémentaires les unes avec les autres. Alors, j'aimerais pour terminer qu'on fasse un peu le lien avec l'actualité et avec cette pandémie qu'on est en train de connaître actuellement. Alors, depuis le début de la crise sanitaire, on a pu observer que le gouvernement français n'avait pas vraiment été capable de réagir convenablement à la situation, de la gérer de la bonne façon, que ce soit par pure incompétence, par erreur de jugement ou simplement par des choix politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population. Et donc on peut se poser la question si finalement ce n'est pas l'organisation de la société capitaliste dans laquelle on vit aujourd'hui qui est en partie responsable. Et qu'est-ce que ça aurait pu donner si on était dans une société avec d'autres fondements, une société anarchiste, libertaire, comme celle que tu décris un petit peu dans ton livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, par rapport à ça, je pense qu'il y a... En fait, ça pose une très bonne question à laquelle je pense qu'il va falloir que le mouvement anarchiste se confronte, parce que c'est face à des situations concrètes aussi que... Ça nous permet de réfléchir véritablement à notre positionnement sur des réponses concrètes. Sur la crise, par exemple, du coronavirus, je pense que la première des choses qu'il faut dire, et qui est la plus facile, en fait, la plus simple, c'est que l'épidémie, la façon dont elle est apparue, la façon dont elle s'est répandue, en fait, elle doit énormément au capitalisme, pour commencer. C'est-à-dire, le développement du capitalisme, la déforestation, la perturbation des écosystèmes par l'agriculture intensive, par exemple, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont permis la transmission du virus à l'homme et qui ont permis qu'il se répande. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire, déjà, je pense. Voilà. Et que le système qu'on prône, il va à l'inverse, évidemment, de tout ça, puisque c'est un système communiste libertaire qui préserve l'équilibre de la biosphère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est que dans le système qui est prôné par l'anarchisme, il n'y a pas la destruction des services publics qu'on peut connaître dans le capitalisme. C'est-à-dire que on doit pouvoir bénéficier d'un système de santé gratuit, qui, avec un maillage territorial réel, et puis surtout, ce qui est fondamental, un système qui n'est pas géré en flux tendu. C'est-à-dire que un système bien géré de façon rationnelle, dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt général, et non pas uniquement de façon comptable. Avec la recherche du profit à court terme, c'est un système de santé avec des lits disponibles qui restent vides qui, en cas de choc, en cas de crise. Voilà, ce que le système capitaliste ne peut pas admettre, puisqu'il fonctionne au flux tendu et il fonctionne à l'élimination, enfin aux économies de coups de ficelle en permanence. Le fait qu'on n'ait pas de stock de masques, par exemple, voilà. Ça, c'est la responsabilité de la gouvernance, de la gestion capitaliste, du management par le profit de court terme. Le fait qu'on ait sous-financé la recherche depuis 15 ans, suite aux traces d'il y a une quinzaine d'années, le fait que la recherche ait été sous-financée, qu'elle ait pris énormément de retard sur la découverte, sur des avancées scientifiques qui permettraient d'aller plus vite aujourd'hui pour découvrir un vaccin, eh ben ça, c'est pareil. Ça dit tout des priorités de l'industrie pharmaceutique et de la recherche qui vont davantage sur des choses qui peuvent rapporter de l'argent à court terme et pas sur des choses qui peuvent sécuriser la société à long terme. Voilà. Donc ça, c'est les premières réponses qu'il faut faire. C'est que dans une économie communiste libertaire, dans une société communiste libertaire, tout cet aspect désastreux, en fait, de l'industrie pharmaceutique et du système de santé capitaliste n'existerait pas. La société serait déjà beaucoup mieux préparé à affronter un choc épidémique, à affronter une pandémie. Et du coup, les décisions politiques qui seraient prises seraient complètement différentes. Aujourd'hui, les décisions politiques qui sont prises, elles le sont sous la contrainte, parce qu'en fait, il n'y a pas de stock de masques, il n'y a pas de stock de tests, et il n'y a pas les capacités hospitalières pour accueillir un grand nombre de malades. Donc, on invente des politiques sous la contrainte, en mentant d'ailleurs, en disant que les masques ne servent à rien, en fait, alors que c'est juste parce qu'il n'y en a pas qu'on dit ça. Et puis, on fait un confinement le plus fort possible pour que les capacités hospitalières ne soient pas débordées. Bon. Dans une société où le système de santé est beaucoup plus généreux et beaucoup plus axé sur l'intérêt de la population, on penserait peut-être des solutions politiques un peu différentes. Néanmoins, quand on est face à une épidémie, et là, c'est là qu'il faut regarder les vraies questions que ça pose à l'anarchisme, quand on est face à une épidémie, de toute façon, même avec un système de santé très robuste et très généreux, le système hospitalier aurait été débordé de toute façon par l'épidémie. Donc la question du confinement se serait posée quand même, tout un tas de questions se seraient posées. La question qui se poserait, c'est, mais dans une société fédéraliste, qui repose sur une forme de démocratie directe, est-ce qu'on est sûr que la décision du confinement aurait été prise dans les temps? Parce que quand on est face à une épidémie, les choses se jouent en jours. Hein. On a vu que la France a pris un énorme retard à cause de la décision de maintenir le vote des élections municipales. Et que c'est sans doute une des raisons pour lesquelles la France est aujourd'hui un des pays les plus touchés par l'épidémie. Donc ça se joue vraiment en jours. Est-ce que dans un système fédéraliste autogestionnaire, la décision aurait été prise à temps? Est-ce qu'on n'aurait pas perdu beaucoup de temps? Parce que la décision démocratique, elle peut prendre du temps, voilà. Est-ce que notre société libertaire, elle n'aurait pas perdu beaucoup de temps? Et est-ce qu'elle n'aurait pas été rattrapée par la crise? Et après, est-ce que ça n'aurait pas donné lieu à des prises de décision dans la panique, mal informées? Enfin voilà, ça c'est une question qui se pose à nous, et qui pose la question, par exemple, de la question de l'autorité scientifique, qui pose la question du fédéralisme, c'est-à-dire... À quel degré est-ce qu'on met une telle décision, puisque on prône un système fédéraliste où les communes et les régions ont un certain nombre de prérogatives qui leur sont propres et où l'autorité, enfin les pouvoirs publics au niveau national ou central, comme on veut, jouent un rôle beaucoup plus minime de coordination. Eh bien, à quel degré est-ce qu'il aurait fallu mettre cette décision du confinement? Ouais. Imaginons par exemple qu'il y ait, je dis n'importe quoi, aujourd'hui il y a 13 régions en France, imaginons qu'il y ait 7 régions qui décident le confinement immédiat, et puis 6 régions qui disent « Oh, on va encore réfléchir, c'est beaucoup trop tôt ». Vous cassez complètement l'intérêt du confinement, quoi, voyez. Donc ça c'est tout ce qui nous questionne, hein, voilà. Et je peux pas donner une réponse là comme ça parce que je pense que le mouvement libertaire, le mouvement anarchiste, il doit réfléchir à ça. Voilà.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de questions et je pense que au-delà du mouvement anarchiste et libertaire, il y a tout un tas de personnes aujourd'hui qui voient les problèmes qui sont posés par l'organisation de la société actuelle et qui se posent beaucoup de questions, même si ils n'ont pas forcément en tête le fait qu'il faut transformer la société pour aller vers une société libertaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui se posent ces questions aujourd'hui là. Bon, alors il va falloir qu'on s'arrête là. Il y a encore beaucoup de points qu'on aurait pu aborder, beaucoup de sujets très intéressants. On va s'arrêter là. Je te remercie quand même beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Je rappelle que ton livre s'appelle 10 questions sur l'anarchisme, qu'il est publié aux éditions Libertalia, et que c'est une très bonne introduction pour quelqu'un qui voudrait découvrir un petit peu ce courant de l'anarchisme. Encore merci Guillaume et à bientôt.
Merci, au revoir.